And before we move on to our next panel, we have a quick announcement from some workshop facilitators.
Et à 15h, entre les deux bâtiments dans le parc, la pièce de théâtre L'An 01 d'après GB. À 15h dans le parc, entre les deux bâtiments.
Thank you so much. You are listening to CKUT 90.3 FM here at the Anarchist Book Fair.
It's a long line of empty plates, from a lake to the bay to the west. Dollars any way you can. When the subjects of this verse are referred to subjectively as bums and murderers, media perverts the scale of the danger to neighbors all nervous, eye each other like strangers or worse. No justice, so get up, stand up, clap your damn hands, do whatever you can to just speak out, seek out the secrets that leak out, even though they don't want to speak out. There ain't no justice
in that picture. That picture that you're painting of me in your mind.
There ain't no justice.
Pictured in the pain of a man's eyes hang without a crime to explain. And the tired crowds around for a photo they're proud of. But suddenly, subtly, an angel cries his name. They didn't mention this in chapter 8. It's all written in past tense like they passed the hate. And now they paint a rosy picture like the times have changed. Like we forgot about the prisons and the crack cocaine. Remember their names, whisper them in recitation, shrouded in shame. Cause in the end, you're gonna meet them on a powerless plane. And watch your feet in hand shackled to a towering crane. And we're yielding difference, like history needs some riddling. Like misery sees your system as accessory for pillaging, meant to be the end of it. Whether you immigrant or children or slaves, you can see it in the difference of living conditions. Like missions torturing Indians into Christians, we call them Palestinians. We ain't
missing.
That picture that you're painting of me in your mind.
There ain't no
justice. Tomorrow.
Vous êtes toujours sur les ondes de CKUT en direct du Salon du Livre Anarchiste au CEDA à Montréal. Et maintenant, on passe à une entrevue avec deux personnes concernant la grève étudiante, l'anarchisme au sein de la grève étudiante. Je vous présente donc mes deux invités, Maxence, qui est étudiant au Cégep Saint-Laurent, et Camille, étudiante et militante à la classe, qui, elle, étudie à l'UQAM. Maxence et Camille, vous étiez tous les deux panélistes pour la discussion sur l'anarchisme au sein du mouvement étudiant qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui au Salon du livre anarchiste. Pouvez-vous nous parler de votre implication respective dans le mouvement étudiant?
Ben en fait, je suis à la base je suis juste simplement un gréviste comme tant d'autres qui essaie de faire sa part au Cégep Saint-Laurent en organisant des activités d'éducation populaire. On a fondé avec plusieurs personnes un Cégep populaire où on a beaucoup d'étudiants, étudiantes, professeurs, puis des gens extérieurs au Cégep aussi qui viennent donner des ateliers. Je suis aussi exécutant comité action sensibilisation au Cégep. En gros, c'est ça.
Camille?
Oui, je suis étudiante en histoire à l'UQAM. J'ai milité dans la CLAC, donc la coalition la convergence des luttes anticapitalistes et dans l'UCL, donc l'Union communiste libertaire, jusqu'à consacrer toute mon implication au mouvement étudiant pour cette grève-ci. Je suis exécutante à l'Association facultaire étudiante des sciences humaines, donc la FECH UQAM, et aussi militante à la classe.
Puisque vous avez participé au panel de tout à l'heure, je prends pour acquis que vous êtes anarchiste. comment amenez-vous des idées plus radicales, plus anarchistes dans vos assemblées générales ou vos autres activités au sein du mouvement étudiant? Maxence?
Ben, personnellement, à Saint-Laurent, le fonctionnement était déjà à la base radical ou plutôt horizontal. Fait que j'ai eu la chance d'évoluer au sein d'une organisation où il y avait déjà une base très ferme. Par contre, c'est surtout de réaffirmer des positions qui avaient été prises avant le G20, des positions anticapitalistes qui ont ensuite motivé les gens à se poser des questions face à leur conditionnement, face à plein de trucs qui entouraient même le cégep en tant que tel, l'éducation. Au sein des cours d'éducation populaire, ben, on a fait en sorte qu'il y ait une myriade de conférenciers et conférencières qui sont venus donner des présentations. Que ça touchait l'ensemble des sphères de la société. Puis souvent, on encourageait vraiment plus la discussion que les présentations en tant que telles. Puis dans les discussions, ben, c'est certain qu'on amenait nos positions personnelles sur l'anarchisme. Puis ça contribuait à créer cette pensée-là au sein des militants, militantes. Puis par la suite, c'est certainement par les actions, faire la promotion des actions, etc.
Oui, ben en fait, je pense que dans nos structures, à la classe, du moins, on fonctionne quand même par démocratie directe qui est inspirée de l'anarchisme. Donc, c'est une structure de pouvoir où les décisions sont prises à la base dans l'Assemblée générale, puis montent vers le haut dans l'organisation nationale à travers des délégués qui font seulement exprimer des mandats. Durant la grève, je pense qu'il y a énormément de nouvelles personnes impliquées. C'est pas toujours évident, mais en même temps, ça permet quand même de faire un travail énorme d'éducation populaire. Par rapport à la diversité des tactiques, à la répression policière, au capitalisme. Donc, c'est des débats qui sont menés en Assemblée générale, mais aussi dans les manifestations. Quand il y a des débats sur la diversité des tactiques, par exemple, quand il y a un Black Bloc dans une manifestation. Puis, à date, ça fonctionne parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui comprennent ces principes-là.
Oui, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ça. Pourquoi, en tant qu'anarchiste, choisir de militer au sein de la classe? Et est-ce qu'il y a une ouverture dans ton expérience à ce que tu viens de mentionner, là, par exemple, la diversité tactique, quelque chose, des approches plus radicales au sein de la classe?
En fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que quand l'AC existait, il y avait énormément d'anarchistes qui étaient déjà à l'AC, qui s'impliquaient déjà très activement dans le mouvement étudiant. En fait, on peut dire que cette grève-là a été largement construite, du moins au début, par des anarchistes. Puis c'est ça qui est pas compris nécessairement, mais c'est que les personnes qui ont mobilisé, qui ont passé des tracts, qui ont organisé des journées de formation, qui ont organisé les assemblées générales, qui ont fait les tournées de classe, c'est très souvent des anarchistes qui ont fait ça. Puis c'est ça que les personnes réalisent pas nécessairement dans tout ça. Puis c'est à peu près ça.
Ouais, souvent, dans, tu sais, ces temps-ci dans les médias, puis on entend, ben, évidemment, on entend souvent que les anarchistes ou des groupes radicaux, voire marxistes, anticapitalistes, etc., infiltrent les manifestations. En fait,
ce fameux mot infiltré.
Ouais, c'est ça. Comme Camille l'a dit, ces gens-là étaient là à la base du mouvement, contribuer à construire un mouvement qui est fort, qui est solide. Puis quand ils sont dans les manifestations, ben, ils n'infiltrent rien. En fait, ils sont là en tant que militants, militantes, au même titre que n'importe qui. Puis voient la hausse des faits de caractère dans l'ensemble de la société. Puis en fait, contribuent à la radicalisation du mouvement dans le sens d'aller chercher les problèmes peut-être plus à la base. Puis établissent ce débat-là, l'apportent aux autres étudiants et étudiantes. Puis donc, il n'y a aucune infiltration. Là, c'est vraiment une élucubration de parler d'infiltration de manifestations par des membres plus radicaux. Là.
Quelle est la pertinence de la grève étudiante d'un point de vue anarchiste?
Je pense que pour cette grève-là, du moins contrairement aux grèves précédentes, on peut vraiment dire qu'il s'agit d'un mouvement de masse, d'une masse qui dépasse l'élite, si on veut, militante, ou même les personnes qui étaient déjà impliquées avant la grève. Chaque fois, je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes, là, mais chaque fois que j'ai l'impression que le mouvement va s'éteindre, qu'il va y avoir une entente, que les gens vont rentrer en classe, à chaque fois, je suis surprise, épatée par ce mouvement-là. Chaque fois, il y a plus de gens dans les manifestations, les gens sont de plus en plus mobilisés, puis on vient rejoindre plusieurs secteurs de la population. C'est pas seulement une lutte étudiante. Puis le gouvernement essaie énormément de nous décrédibiliser en disant la classe et ses soi-disant revendications sociales. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est une lutte qui est beaucoup plus large, qui concerne les services publics, qui critique le néolibéralisme, qui critique une logique capitaliste de marchandisation des services publics.
Ouais, effectivement. Puis ce qui est étonnant aussi, c'est que le gouvernement essaie de nous discréditer en disant que les grévistes représentent présentement seulement un tiers de la population étudiante. Quand le gouvernement a été élu par 60 % de la population, que le gouvernement libéral a moins de 24 % de la population qui l'a élu. Donc, la grève en tant que telle a appris à plusieurs étudiants et étudiantes beaucoup d'autres personnes, j'imagine, dans la société, à comprendre que l'État n'est pas... l'État n'a pas la vérité infuse non plus. Parmi les militants et militantes qui s'impliquent directement, plus activement au Cégep et tout, ces gens-là, la grève étudiante a vraiment changé leur vie, c'est certain, puis vont remettre en question... tout le conditionnement social qui se retrouve à être derrière eux, puis qui ont un peu mis ça de côté dans la rêve étudiante, puis par toutes les discussions qu'on a quotidiennement, apprennent à repenser la société, puis peut-être faire une société nouvelle ultimement. Mais bon, sinon, il y a toujours des lacunes du point de vue de rallier d'autres groupes militants au mouvement étudiant. Le mouvement étudiant... passe par-dessus beaucoup d'autres revendications dans notre société. Peut-être qu'on a oublié on n'a pas oublié, il y a beaucoup de monde qui ont essayé d'élargir le débat, par contre c'est très difficile. Puis je sais pas encore comment on va pouvoir le faire exactement, mais ça serait important de ramener ça de l'avant vraiment, d'aller toucher à beaucoup d'autres sphères que simplement l'éducation dans la société, puis de percer surtout le fait qu'on milite seulement pour l'accessibilité à l'étude, mais aussi pour une éducation qui serait différente, puis qui apporterait plus d'horizontalité aux étudiants et étudiantes.
Oui, bien, ce que tu dis, en fait, ça me fait penser que je voulais vous reposer la question que j'ai posée pendant le panel sur la radicalisation, parce que, je sais pas, on assiste en quelque sorte à une radicalisation de la jeunesse avec le mouvement étudiant, de par le fait que les méthodes utilisées sont de plus en plus radicales. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que cela signifie nécessairement que la pensée se radicalise aussi? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, au sortir de cette grève, auront plus des idéaux démocratiques, mais plutôt des idéaux anarchistes? Et puis, est-ce que ces liens entre la lutte étudiante et toutes les autres luttes qui sont toutes interreliées, vous la voyez vraiment se faire chez vos camarades, vos co-grévistes?
Mais je pense que il y a un processus de réflexion qui s'amorce pour beaucoup de personnes. C'est une grève qui est extrêmement longue comparée aux grèves étudiantes qu'on a connues par le passé au Québec. Puis ce processus de pensée-là progresse durant plusieurs semaines, sans dire que les personnes sont nécessairement devenues anarchistes. On peut dire que ces personnes-là intériorise, si on veut, des axes de discours qui sont anarchistes, par exemple le féminisme, par exemple la critique du capitalisme, la critique de la division du pouvoir, critique de la démocratie parlementaire. Donc, on peut dire que le discours anarchiste est intériorisé d'une certaine manière, mais je pense pas non plus que toutes ces personnes-là se revendiquent de l'anarchisme. Puis c'est bien aussi, moi, personnellement, je veux pas que tout le monde devienne anarchiste nécessairement, mais le but, c'est d'amener un discours qui est plus critique. Puis si les gens le comprennent puis le diffusent, c'est ça le plus important, à mon avis.
Ça, puis ce que je trouve intéressant, c'est surtout, ben, tu sais, c'est certain que le... Dans chaque faculté, dans chaque université, dans chaque association étudiante, il y a toujours le certain bastion militant qui est plus fort, puis que c'est souvent c'est eux qui vont prendre peut-être malheureusement, mais bon, c'est pas à moi, c'est pas nécessairement ma responsabilité, mais qui vont prendre beaucoup de place dans les assemblées générales puis tout. Puis ces gens-là sont souvent les gens qui vont beaucoup s'impliquer au local. Pour ma part, au Cégep Saint-Laurent, ben on assiste vraiment à une en fait, ouais, c'est ça, dans ces gens-là, il y a vraiment une radicalisation. Des gens qui au début de la grève parlaient peut-être du PQ comme une alternative, du Parti québécois comme une alternative, etc. Maintenant viennent même à contester des affirmations que leurs camarades font par rapport à l'anarchisme ou par rapport à des trucs comme ça, en disant non, c'est peut-être pas vrai, puis il y a peut-être des manières de rendre ça plus direct, plein de processus comme ça qui sont vraiment intéressants. Par contre, récemment, je disais un truc. Mais tu sais, je suis pas totalement en faveur de ces thèses-là. Là. Il y a toujours eu des mouvements sociaux, puis c'est pas Facebook qui a changé le sort des mouvements sociaux. Par contre, Facebook a effectivement apporté une rapidité d'action, j'imagine. Bon, c'est pas à moi de juger du bien fait ou du mal fait de ça. J'ai pas encore assez étudié la question. Mais ce que je disais justement, c'est que oui, ça a radicalisé beaucoup de gens, beaucoup de personnes du côté qui sont des gens contre la hausse des frais de scolarité, mais aussi ça a contribué aux personnes de l'autre côté à se radicaliser, justement par l'aspect de, qu'on a, bon, en tout cas, qui est un peu trop glorifié, là, parce qu'en gros, c'est un groupe de 1700 personnes sur Facebook, mais des carrés verts et autres, je sais pas à quel point c'est vrai non plus. Mais bon, on pourrait analyser ça. Puis pour ce qui est des manifestations directement, ben de plus en plus, on avait les imagistes nocturnes qui, en fait, pensaient vraiment à la belle majorité silencieuse que personne n'a jamais rencontrée. Puis, en voulant vraiment préserver l'image du mouvement étudiant, fonçaient sur des gens qui s'attaquaient à des objets ou n'importe quoi dans les manifestations. Je sais pas à quel point ces gens-là, comment ces gens-là ont évolué, d'où ils sortent non plus, mais bon, ça va être à suivre. Il y a beaucoup de gens qui se sont radicalisés, comme on l'a dit, dans leurs pensées, dans leurs actions, bien évidemment. Selon moi, pour la majorité, ça va de pair. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui restent peut-être à radicaliser ou du moins à avoir une réflexion qui serait plus profonde, qui me remettrait en question chaque action que ces gens-là font. Puis il faut trouver des moyens de toucher ces gens-là de plus en plus.
Le Salon du livre anarchiste est un lieu de rencontre pour des anarchistes de partout au Canada et en Amérique du Nord. Est-ce que ceux qui ne viennent pas du Québec, que vous avez rencontrés cette fin de semaine ou que vous connaissez par d'autres moyens, sont bien informés sur la grève étudiante?
Ben, je dirais personnellement des articles que j'en ai lus, des articles qui provenaient pas nécessairement du Québec. J'ai trouvé en fait que les médias étrangers faisaient un meilleur traitement de la grève étudiante québécoise que les médias québécois.
OK.
Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'intérêt, si on veut, de leur classe dominante locale à maintenir à travers tout ça. Là. Il y a peut-être aussi un peu de ça là-dedans, mais des articles, par exemple, que je voyais qui venaient de France, puis pas seulement des médias alternatifs, mais aussi des grands médias là-bas, comme Paris Match, traitaient mieux de la grève étudiante que le Journal de Montréal ou que La Presse, ouais, ou même que Le Devoir parfois.
Le Monde qui a fait un article qui était presque intitulé Interdiction de manifester au Québec, là. C'était presque ça, c'était vraiment direct. Puis, c'est vrai qu'ils font une analyse beaucoup plus globale, peut-être qu'ils viennent, en tout cas. Ouais. C'est clair.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maxence et Camille. Est-ce que vous avez quoi que ce soit d'autre à rajouter avant la fin de notre entrevue?
Nous vaincrons.
Ouais, j'appuie.
Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur les ondes CQUT en direct du Salon du livre anarchiste.
Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande ta femme, l'envie claque comme nous sommes. vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfant, pas imagine un mur et aboli la rage, car impossible, et cette paix t'a voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire, et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage. Car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et pétons, est-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes, mais dans quel monde a Colombé parti, la rage, d'être autant balafré par les piquants des normes, et puis la rage, ouais la rage, d'avoir la rage depuis qu'on est mort, on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie, on pourra plus taire, ni s'asseoir, dorénavant, on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur grâce, on restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Plus nous arrêter, insoumis, sages, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leur choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le temps. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. La rage, combien des notes finiront par retourner leurs fesses. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout l'argent OGM stérilise la terre. La rage, sur l'entrenage soit brisé, la rage, car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé, la rage, car ce monde ne nous correspond pas, nous nourrissent de vos rêves pour placer nos remparts, la rage, car ce monde ne nous correspond pas, où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas, on restera debout quoi qu'il arrive, j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie, on pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur grâce, on restera debout quoi qu'il arrive, j'arrive jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie, on plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage, d'un Chirac, d'un Charonne, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage, car ce monde voit rouge, mais de grisailles entourées. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage, car c'est le pire que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour, tant de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant charger l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change, hein. Nous faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition, la rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, on pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt, parce qu'on a la rage, le cœur grâce. La rage, on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage, elle pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir, dorénavant on sera prêt, parce qu'on a la rage, le cœur grâce. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Elle pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste.
You are listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. This is a live broadcast from the annual Anarchist Book Fair. Stop by today or tomorrow at Seda, located at 2515 Rue Delisle, or Georges Vanier Cultural Center, located at 2450 Workman Street. Up next, we have a short collection of interviews recorded today by Max, of various booksellers and publishers and people tabling here at the book fair. Do stay tuned. This is a live broadcast on CKUT 90.3 FM.
Here at the Montreal Anarchist Book Fair, I'm at the Thought Crime Inc. and Black Cat Press table, and I'm here with
Nick,
Marianne,
and you guys have a lot of really interesting looking books here. Could you tell me about a couple of them?
Okay, the first one I want to talk about is How to Fire Your Boss, which we publish under the auspices of the IWW in Edmonton. It's a great, handy little direct action guide with a bunch of how-tos on various workplace tactics that you can use to get your boss in line and get him to do what you want. So I definitely recommend it. It's really good. It's also quite cheap, and it's a quick read.
So what sort of tactics does this include? How do you do that?
Well, some of it's things like slowdowns or work to rules, quickie strikes, or the march on the boss, an old standby and classic. So it's got a variety of good tactics inside it. Yeah.
What's a march on the boss?
That's when you get a group of coworkers to march into the boss's office with a plan and a list of demands. And basically, it's how you get that group to pressure the boss into giving you what you want.
Aren't people awfully nervous about doing that? How do you talk people into that?
Well, it really comes down to planning. What you need to do in order to pull an action like that off is talk to everybody involved and get them on board beforehand, and also have a very clear plan and a strategy. You break down different roles and give people different roles so that they don't have to think too much on the fly about what they're doing. So it kind of just works like clockwork while you do it.
So what sort of roles would you assign?
Well, there's three of them. One of them is the interrupters, and usually you give that to the braver ones in the crowd, and their job is to interrupt and make space for the other people, not let the boss talk too much, make it a meeting by the workers, not by the boss. The other one is the testimonials, and those people give a brief testimonial on why they think that the boss's policy is harming them. And so it's a good role to give people who you're kind of building up and who have been affected by something and don't necessarily want to be too confrontational. And then the last one, which is kind of for the people in the middle, is the demands. And what you do with that is you get people to give demands of what they want and the changes in policy they want from management.
So have you ever been involved in this kind of thing, or is this just like a fantasy scenario?
Oh, I've definitely been involved in a few of them. We've probably had about a couple dozen of them at the post office in the last 2 or 3 years, and they've been very effective. We've won parking issues. We've forced Canada Post to hire hundreds of staff over these kinds of actions. They're quite effective, yeah.
So now I'm going to talk to Marianne. She's got a book that she thinks is especially interesting here at the Anarchist Book Fair called Bourgeois Influences on Anarchism. Marianne?
Yeah, this is a great little book. It's by this guy named Luigi Fabri, and he was actually a comrade of Malatesta's, but he's not very well known. He wrote probably as much as Malatesta did, but we haven't really inherited him as much as we've inherited Malatesta. But this book is about how the idea that anarchism has something to do with individual, violent, heroic acts is actually not internal to anarchist theory and anarchist history itself, but comes from what he calls a bourgeois influence. And what he means by that is there were these poets and journalists and novelists in the 19th century and in the early 20th century who saw individual people commit these exciting acts of violence, you know, blowing up a bank or maybe assassinating somebody or whatever. And they would applaud these acts, and because they didn't know anything about anarchism, they'd call these anarchistic acts. And that started to influence the way that other people would take up the label anarchism. And Fabri thinks that that's really unfortunate because, really, if you go look at, you know, Bakunin or Kropotkin or the real anarchist theorists throughout the years, they were always emphasizing that anarchism has to be something that is organized and that involves people acting together and not individual people acting as they see fit in a way that's only accountable to themselves.
So I've pulled Ahmed from the IWW Ottawa table away into a quieter place so we can have a conversation. I see here you've been doing a lot of stuff around wage theft, Ahmed. Can you tell me what is that? Why is the IWW interested, and what have you been doing to it?
Wage theft is a very common occurrence today. It happens where an employer will not pay their employee or worker for work that they do. If you look at the statistics, it's a growing trend. A few years ago, about 2007, 2008, the Ontario Ministry of Labour had received a spiking increase of complaints regarding wage theft. So you went from an average of 15,000 complaints a year to over 20,000 complaints a year, which means that bosses across the province are becoming very comfortable with stealing people's money, wages, and getting away with it. It's very unfortunate, but there, just like a lot of other problems, there are solutions to it. We have taken on a few in the last few years. Right now, we're in the middle of one of them in Ottawa. It's a hair salon, and the employer refuses to pay. It's an interesting case because now we have the Ministry of Labour on our side. They said, you know, they did their investigation, and now they've ordered that employer to pay up. And she still refuses to. We're going to be sticking to our guns and saying again and again and again that the way to win these wage theft fights is not just going through the legal hoops and filing complaints with the Ministry of Labor, but it's also you also win these fights through direct action when workers come together and unite and fight together to win their wages.
So, Ahmed, you mentioned that the government was on your side now. Why go to an organization like the IWW? Why not just go to the government? It's against the law. It's very clear. You have to pay people when they work. The laws are on the books. So what's the problem? Like, why don't you just go to the police? What's the problem?
The problem is that the law was never made with workers in mind. It does not side with the workers. It sides with the bosses. That's just a natural way of how laws work. A worker alone fighting wage theft is going to encounter a lot of problems. I mean, we've had workers in the past who have tried to do that at the beginning of the campaign, where they'll go in and they'll try to talk with their boss, and their boss will threaten them with trespass or threaten them with calling the police. So working alone is never a good option for anyone when it comes to injustice. In the IWW, we have a saying, it goes like this. The law is your shield and direct action is a sword. Now, direct action is very important because it pushes on community support, involves community support, it involves, you know, the neighborhood that you're working in. It's not just the worker and the boss. Because these problems are so widespread and they're so prevalent in our society, we have a certain responsibility. You can argue that we need to go beyond just the one case and draw public attention to this, draw public support, so that more employers who practice wage theft become uncomfortable with this and know that there's going to be repercussions and know that there's going to be problems if they try to continue stealing their workers' wages.
So I've borrowed AJ from the OCAP, which is the Ontario Coalition Against Poverty table, and they're going to talk about a zine called We Didn't Start the Fire that they've got here on the table.
Hi, so this zine is designed to make discussions around the economic crisis and the way that capitalism works accessible to people, and particularly in 2008 when capitalism was in a very acute crisis, which it's still in, there was a lot of talk about the economy and a lot of folks were having a hard time, including myself, understanding what the heck was going on and what futures and credit default swaps are. So we set out to make a comic that really clearly explains what all of this stuff is so that people have more of the tools to understand what's going on and really the house of cards that's been built with capitalism and what our economy rides on. So just one example is futures, which has been going on for a long time and makes a lot of sense when it was originally started around farming. So farmers didn't know how much money they were going to make in a year. So they could sell futures on their crop. So if the price went down, they would be able to budget and know how much they were going to make. If the price went down, they'd actually be making a profit. If the price went up, they wouldn't be making as much money when they take in their crop, but they still would have known how much money they were going to make and would have had the money up front. And so that made a lot of sense in that scenario. Now it's gone totally out of control, where there's futures on the weather. There's futures on futures on futures, and people buy and trade different futures and then bet against them. The Pentagon tried to create a futures market that was about terrorism, for people to bet on whether or not there was going to be a terrorist attack. Luckily was put a stop to. That market never went through, but all of these different kinds of markets, which is just essentially gambling that's going on all of the time. So that and a whole bunch of different kind of complex economic ideas are summed up through images and simple explanations.
Yeah, this is a beautiful book. It's actually laid out, I see, as a comic book. Did you participate in the art for this?
Yeah, I did. And it started because we were going to day schools about the economic crisis, and I was having a hard time following and would doodle. And then looked at it and was like, oh, this makes so much more sense to me. So we got a bunch of artists together, and different people took on a different concept and explained it. And then we had political scientists go through it and make sure that we were correct with what we were saying.
So can you talk about what Ontario Coalition Against Poverty is, in case people aren't familiar with it, and why you think that this is an important publication for folks to read?
So OCAP's been around for over 20 years. We're an anti-poverty organization, and because we're an anti-poverty organization, we believe that we inherently have to be an anti-capitalist organization, because capitalism creates poverty and needs poverty to exist. So we work to combat capitalism in the long term. In the short term, we fight for decent, accessible, affordable housing for all, for a raise in social assistance rates and minimum wage, and basically for poor folks to be able to get what they need, not only to survive, but to be able to thrive. And this comic we made because the economy is a really important thing for folks to understand, and also because so many billions of dollars were being put into rich people's pockets through a variety of different bailouts at the same time as poor people were in increasing crisis. And what we've seen now, a few years into the economic crisis, is that rich people have really, really consolidated their wealth, and it's the people at the bottom who are so much worse off. So explaining how the economy works is one accessible way to start talking about why poor people need to organize, and we all need to fight together to get what we need, and poor people need to stop paying for the rich's crises, but also their tax cuts. And all of the economic reforms that are being made, all of the cuts are being done on poor people's backs. So we're fighting those things.
Okay, AJ, thanks a lot. Bye.
You are listening to CKUT 90.3 FM in Montreal. Thanks to Max for interviews with those tabling, selling their publications and their books, trading their books here at the Anarchist Book Fair. Stop by today or tomorrow. The Anarchist Book Fair is taking place at SEDA and the Georges Vanier Cultural Center. Again, this is CKUT 90.3 FM, a live remote broadcast. Thanks to Funky Revolutions for letting us take over their slot. Next on the next on the broadcast, we have an interview conducted by Luba. Luba, how are you? How are you doing?
How are you?
I'm doing really well, thanks. How are you today?
Okay, I'm good, too. Thank you. So why are you at the Anarchist Book Fair?
So I'm here because right around this time last year, I went to this amazing-sounding thing called an Anarchist Book Fair for the first time on my way to exploring the East Coast and ultimately deciding that's where I wanted to live. And that feels like it was the first step in a lot of really good decisions I started making in my life that have seen me literally having run away from Ontario and off joining the circus in Halifax.
That's awesome. So what does anarchism mean to you?
Anarchism, for me, means largely questioning and being self-critical to the point of finding all those points of tension within the systems by which I myself benefit that, because of commitments I have to the world generally not sucking as a hopeful project, need to be deconstructed, resisted, and undone and changed. So it is a rejection of any kind of given status quo in which I or anyone else can unjustly exercise power and or privilege at the expense, oppression, or exploitation of someone else or any other group of people.
Oh, that is really deep.
I might be writing thesis-y things about this, so it's been on my mind.
So do you support the student strike?
Very much so. I admit that being out east in Halifax and sort of dealing with a very practical concern on my desire to finish my degree, I've been much more removed from the movement than some people very dear to me on the ground, both in undergraduate enrollment in Halifax and here in Montreal. But from everything that I do try to pick up regularly when I decide to check in with the world, I, although I'm not wearing one right now, am a proud red square wearer.
Same here. I also want to wear a red square. I can't find one, though. So any last words?
I like zines a whole lot, and I think that anyone else who takes joy in handheld publications of an indie sort that also tend towards the graphic should totally check out the Anarchist Book Fair, because there isn't a zine room this year. They're just interspersed among everything, and that's really awesome. And thank you for choosing me randomly in a crowd.
Thank you for being here.